Good morning, everyone. We're...
Bonjour à tous. Nous allons commencer dans quelques minutes. Mais nous sommes donc dans la session des nouveaux venus. Nous avons une très grande salle et cela prend du temps pour réchauffer cette salle. Donc, si vous vouliez bien vous rapprocher un peu de nous, en attendant, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous demandons d'attendre encore quelques minutes. Merci.
Okay, everybody, we're going to go ahead and get...
Bon, ben nous allons commencer ce matin. C'est donc la réunion de bienvenue des nouveaux venus. Je m'appelle Janice Dumas-Lang. Vous allez peut-être entendre mon nom dans les couloirs. On m'appelle Mama J, c'est moi. Donc voilà, je suis la personne qui gère ce service pour l'ICANN, pour le programme des boursiers et donc pour le programme des nouveaux venus. Beaucoup disent que j'ai le meilleur travail dans la CAN. L'importance de ce programme des nouveaux venus, pour moi, c'est très personnel. Quand je suis arrivée dans le personnel en 2007, je ne connaissais rien de la CAN. Maintenant, cela faisait donc à l'époque 4 mois que j'étais dans la CAN quand j'étais à ma première conférence. J'avais passé 21 ans chez Walt Disney et 4 ans comme institutrice dans les écoles. Et voilà, je me retrouvais donc à l'ICANN. Beaucoup de gens du personnel ne me connaissaient pas. J'étais dans au bureau de Los Angeles. Je travaillais sur certains projets et un de ces projets était donc le programme des nouveaux boursiers. Donc, peu de gens me connaissaient. Je faisais du travail à mon bureau. Et puis, à San Juan, on m'a laissé libre de faire ce que je voulais. Donc, l'expérience au début, c'était difficile, pour vous dire. Même dans le personnel que j'aime beaucoup maintenant, ces gens-là donc ne prenaient pas le temps de me souhaiter la bienvenue en tant que nouvelle venue. En revenant en arrière, ils ne se rappelaient pas, eux, quand ils étaient nouveaux et comment il était difficile de comprendre le langage de cette communauté que l'on appelle l'ICANN et comment c'était difficile de suivre les conversations Parce que les gens parlaient dans cette langue d'acronyme qu'a la communauté ICANN. Je me souviens, j'ouvrais les portes des salles de réunion et puis j'avais des attaques de panique. Une personne qui était venue dans une nouvelle ville et qui est arrivée dans une nouvelle école pour la première fois. Donc tout le monde se connaissait et personne ne me connaissait. Et ne me souhaitait pas forcément la bienvenue dans la salle d'école. J'avais ce sentiment-là. Donc j'ai laissé et je suis partie. Et je me disais, les réunions, c'était pas pour moi. Et c'était une grande erreur. Et maintenant, c'est une erreur que nous voulons corriger durant la première journée de la conférence à Cannes. Donc, par rapport à mon expérience et d'autres personnes aussi, nous avons commencé ce programme de nouveaux venus. Nous avons commencé cela à la réunion de San Francisco. Et nous avons essayé de trouver une façon donc de souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus, de vous faire sentir bien dans cette communauté et de vous, encore une fois, de vous souhaiter la bienvenue. Quelque chose, les écouteurs pour l'interprétation sont à l'entrée de la salle, à côté des portes. Si l'anglais donc n'est pas votre première langue, si vous parlez français, espagnol, allez chercher les écouteurs. Nous avons des interprètes dans le fond de la salle et durant cette réunion, et ils sont là pour vous aider à écouter dans la langue qui vous est confortable. Et aussi cette semaine dans Canning, dans la salle qui est derrière aussi Padang, dans les sessions de l'Atlarge et dans les sessions du GAC, vous allez aussi trouver des services d'interprétation. Donc cherchez les écouteurs. Vous pouvez bien sûr les utiliser. Vous pouvez aussi poser vos questions dans votre langue et vous aurez de l'interprétation. Si des gens nous écoutent à distance, ces personnes aussi peuvent écouter dans leur langue à distance. Et puis essayez de faire attention aux interprètes. Faites attention quand vous parlez, c'est important pour moi. Moi, je parle très vite. J'ai l'habitude de parler très vite. Donc, quand je viens à l'ICANN aux conférences, j'essaie de ralentir mon parler new-yorkais. Se calme un peu. Je passe un peu à une vitesse inférieure. C'est pour plusieurs raisons. En premier, c'est parce que l'anglais n'est pas forcément la première langue des gens qui sont dans ma salle. Il faut respecter cela. Et aussi pour les interprètes, parce qu'ils essaient de me suivre en tant que participant ou orateur. Si vous posez une question, il faut qu'ils puissent interpréter dans une autre langue de façon correcte. Donc, si vous parlez trop vite, si on parle trop vite, il y a peut-être des choses qui seront manquantes dans l'interprétation, des choses que vous voulez dire qui ne seront peut-être pas, le message ne passera pas. Donc, rappelez-vous de cela quand vous parlez dans n'importe quelle langue, dans les salles correspondantes. Tout est enregistré et transcrit. Donc, il y a une troisième raison pour laquelle nous sommes très, très amis avec les interprètes, parce que nous voulons qu'ils interprètent les choses correctement pour qu'ils soient enregistrés correctement. Dans la salle, vous voulez bien mettre vos ordinateurs sur silence. Si vous voulez visiter d'autres sessions sur Adobe Connect pendant que vous êtes dans cette salle, oui, c'est bon. Si vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, si vous voulez écouter la session du GAC dans la salle Adobe Connect sur votre internet, moi, je vous suggère pas de faire ça. Je pense que vous devriez être dans une salle et vous préoccuper de ce qui se passe dans la salle même. Mais parce que tout ce qui est dans les autres salles, c'est enregistré et transcrit, et souvent dans plusieurs langues. Donc, vous serez capable plus tard d'aller voir cela. Donc, si vous pouvez être physiquement, mentalement présente dans une salle de réunion et ainsi focusser sur les gens qui sont là et les personnels et les personnes qui sont là partager des choses pour vous, ça a une valeur énorme. Donc, je vous encourage fortement de ne pas écouter une autre salle sur votre ordinateur et d'être présent dans la salle. Surtout en tant que nouveau venu, je vous conseille de vraiment de faire attention à ce qui se passe dans la salle même. S'il y a des questions, des commentaires, des interactions, des interruptions, c'est encourager ceux qui ont des enfants dans cette salle. Vous savez, quand on élève des enfants et que les enfants vous interrompent sans arrêt, on dit toujours « oui, chut, ne m'interromps pas, soyez polis ». Non, soyez pas comme ça, interrompez-nous. Quand quelque chose se passe, quelque chose que vous entendez, vous n'avez pas forcément bien compris, vous ne connaissez pas, vous avez une question sur ce sujet et que cela vous fait penser à autre chose. Par exemple, levez la main, moi. J'ai deux personnes dans cette salle, Aurélia et Duchamp. Ils sont là avec des micros portables et ils passeront à travers la salle quand ils verront que vos mains sont levées. Ils s'arrêteront et vous écouteront vos questions et passeront... Autre chose, s'il y a plusieurs questions, je vais peut-être être obligée, moi, en tant que facilitateur, dire que, bon, il faut qu'on aille de l'avant parce qu'on a passé du temps. Mais on encourage vraiment vos interactions, vos interruptions dans ces sessions toute la journée. Vos questions, vos interruptions vont rendre cette réunion réussie, disons. Donc, nous vous encourageons à faire cela. Et surtout en dernier, soyez relax, c'est dur d'être un nouveau venu, c'est stressant. Mettez de côté votre travail, vous avez mis de côté votre travail, vos problèmes personnels, vous avez voyagé peut-être de longue distance, c'est difficile, donc il faut absolument respirer, que ce soit virtuel ou physique, il faut respirer. Et puis commencer la journée de façon relaxée et profiter des gens de la communauté qui sont là pour vous aider à circuler dans ce labyrinthe Icahn pendant la semaine. Les objectifs de la journée sont simples. Nous sommes là pour vous aider à vous engager de façon rapide et réussie. Nous voulons pas qu'après 3 jours, vous puissiez vous dire « Oh mon Dieu, si j'avais su ça quand j'ai commencé !» Non, nous voulons que vous sachiez cela maintenant. Nous sommes là pour vous donner une compréhension rapide, le plus vite possible. Nous voulons que vous compreniez la structure de l'ICANN. Nous ne sommes pas tout. Nous sommes pas la seule entité dans l'écosystème d'ICANN, mais nous voulons que vous compreniez qui nous sommes et comment nous faisons les choses. Donc tous ceux d'entre nous qui sont ici, les membres de notre équipe Asie, moi j'appelle ça mon posse, mon groupe, ce sont des représentants de l'ICANN en Asie qui est une région diverse, énorme. Nous avons donc des personnes qui sont en Inde, en Corée, à Singapour, en Chine. Et afin de pouvoir atteindre toutes nos parties prenantes en Asie, ce sont les gens qui vont vous représenter ce matin, qui vont vous parler du modèle multipartite de l'ICANN dans l'écosystème de l'ICANN. Ils vont devenir vos mentors, comme moi-même. Des gens qui puissent vous guider cette semaine parce que vous allez connaître leur visage et vous allez pouvoir les retrouver dans les couloirs de la conférence. Nous voulons vous envoyer, faciliter les choses, que ce soit plus facile pour vous que lorsque vous êtes arrivé. Donc, vous donner le plus d'informations possible et c'est notre objectif. Notre journée est à partager en segments. Je vais parler encore 2 minutes. Oui, merci. Juste pour vous présenter cette expérience de nouveau venu. Et ensuite, je vais vous passer le micro à l'équipe pour qu'on puisse parler de l'ICANN, du modèle multipartite. Cet après-midi, quand vous reviendrez vers 13h30, et j'espère que vous reviendrez, nous allons commencer à parler de la structure de l'ICANN. Nous allons parler des politiques pour... C'est en fait, les gens sont surpris de voir que c'est pas le personnel ICANN qui a créé des politiques. Nous mettons en place, les politiques sont créées par chacun d'entre vous. Donc c'est important que vous sachiez que c'est pas les légendes que vous avez entendues dans les couloirs, dans d'autres réunions ou ailleurs. Nous voulons changer ces idées, que vous puissiez vraiment comprendre comment fonctionne l'ICANN. Nous allons parler de la transition NTIA et de Liana et de certaines de ses fonctions. Il y a une très bonne session d'ailleurs mercredi. Liana, qui, comment, où et comment, encore une fois. Et aujourd'hui, nous allons faire un peu une vue d'ensemble pour vous mettre au courant de la transition. Vous allez avoir des membres de la division des domaines globaux qui se reviendra cet après-midi, qui parlera de nos services, des des titulaires d'ADN et des registres des registrants. Et pour vous montrer où on va maintenant, nous aurons des représentants de nos équipes de résilience. Steve Grandy, qui est là, à ma gauche, qui fait partie de cette équipe, il sera là, il parlera avec l'équipe Asie et pourra répondre aux questions dans tout ce qui est formation et sécurité. Les choses que nous, l'ICANN, nous pouvons amener dans vos pays, vous aider à faire de la formation sur les problèmes de sécurité. Nous sommes là pour vous aider. Et il sera là aussi cet après-midi, vous en parler encore plus. Et cet après-midi, nous parlerons de la semaine, des réunions de la semaine. Vous aider à construire un ordre du jour pour vos journées. Nous sommes là au stand ICANN, à côté du bureau d'enregistrement, pour vous aider toute la semaine. Et ensuite, cet après-midi, nous vous ferons lever et nous allons départager la salle en 4 groupes et ainsi nous pourrons parler de la société civile dans l'ICANN, le gouvernement et l'ICANN, les commerces, le côté commercial et l'ICANN, enfin tous les groupes de façon très informelle pour pouvoir vous aider à parler de chacun de ces secteurs, pour voir quels sont les secteurs qui vous correspondent le mieux. Et vous aurez aussi des gens que vous rencontrez. Vous pourrez donc rencontrer des gens sur lesquels vous pourrez compter plus tard. Je parlais un petit peu de ce langage étrange de l'ICANN, des acronymes de l'ICANN. Cela devient un badge d'honneur d'un certain point de vue quand vous êtes un ancien de l'ICANN. Vous parlez comme ça, en couloir, oui, le GNSO, le ALAC, ou les IGO, NGO, blablabla, ainsi de suite. Et tous les nouveaux venus se sauvent parce que ils se disent, oh mon Dieu, mais dans quel pays suis-je arrivé? Il faut que je rentre chez moi. C'est fini. Je m'en vais. Je pars. Non, nous voulons pas que vous vous sentiez comme cela. Sur la page d'accueil de l'ICANN, vous pouvez aller trouver sur l'Internet, donc sur le site web, un glossaire des acronymes. Aussi, quand vous aurez au stand de l'ICANN, vous trouverez une carte que vous pouvez scanner sur votre tablette ou votre téléphone portable. Vous pourrez scanner ou vous pouvez aussi télécharger l'application Quizlet. Et ainsi, vous pourrez connaître tous ces acronymes. Comme ça, quand quelqu'un part, vous pourrez avoir cette application sur votre mobile et cliquer sur l'acronyme en question pour avoir l'information. Vous pouvez bien sûr aussi trouver ça sur le site web. Ça s'appelle le Quizlet. Et je pense qu'il est fait aussi en 9 langues. Donc, si l'anglais n'est pas votre langue, Quizlet peut vous aider dans votre langue. Et donc, passez par le stand de nouveaux venus et vous pourrez scanner cette carte Quizlet. Alors, il y a quelques réunions qui sont fermées. Il y a aussi des sessions ouvertes au public. La plupart des réunions sont ouvertes au public. Les réunions fermées sont en rose sur l'ordre du jour, sur la page des horaires de la réunion. Mais souvent, c'est pas vous qui êtes en externe, c'est eux qui sont en interne. Donc, souvent, on voit les portes fermées, mais vous pouvez rentrer. Souvent, il y a des gens qui se retrouvent et qui se voient 3 fois par an seulement. Donc, certaines de ces réunions sont fermées. Par exemple, mardi, il y aura un temps pour chaque communauté de retrouver le conseil d'administration. Mais il s'agit des fois de réunions où les conseils d'administration se retrouvent pour prendre des décisions. Alors, dans ces cas-là, elle ferme les portes pour prendre des décisions privées. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes, vous ne pouvez pas rentrer, mais c'est eux qui se renferment. Alors, après la cérémonie d'ouverture aujourd'hui, les couloirs, vous verrez, sont très peuplés. Vous verrez, il y a une énergie. Rejoignez ces gens-là. Tout le monde se connaît parce qu'ils sont peut-être venus une seule fois. Ou il y a des gens comme Steve, par exemple, qui sont là depuis 2002. Les gens se connaissent, mais d'un seul coup, vous allez voir que vous allez vous sentir confiant. Vous allez pouvoir participer aux conversations. N'attendez pas. Allez-y. Vous savez, ils parlent, ils conversent de tas de choses que vous pouvez, auxquelles vous pouvez participer. Vous pouvez apprendre, rentrer dans les conversations. Vous avez votre ruban vert de nouveau venu. Les gens vous accueilleront. Et comme ça, vous pouvez ramener avec vous des informations. Vous savez que vous saurez que ces gens-là ont besoin de vous. On a besoin de vous dans cette communauté. Donc, on vous entendrez tout ce buzz et vous verrez tout le monde parle et tout. Rejoignez ces gens-là. Comment le fait-on? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avant de passer le micro à l'équipe Asie, alors que moi, je fais cela depuis 8 ans, que ce soit à travers le programme de boursier ou depuis 2007 avec le programme 2011 avec le programme des nouveaux venus. Moi, il m'arrive d'avoir des pensées qui me viennent comme ça en pleine nuit. J'ai eu une pensée il y a pas très longtemps. C'est intéressant parce que quand Fadi est devenu président, il a parlé de Oasis et il a une adresse mail qui s'appelle Oasis. Et ICANN ne peut pas devenir une forteresse. ICANN doit devenir une oasis, un endroit où les gens peuvent venir parce que cela fonctionne, parce que c'est efficace. Mais il faut qu'on le fasse tout cela ensemble. Donc merci d'être ici, maître, si de vouloir faire partie de cette communauté, merci de vouloir apprendre à propos de cette communauté. Et ainsi, nous allons commencer et parler un petit peu comment tout cela a démarré, a commencé. Merci, Janice. Au micro. Bonjour à tous. Je m'appelle Jaren. C'est un nom chinois. C'est un petit peu bizarre comme nom. Je n'ai pas encore de nom anglo, mais je suis un des représentants de l'ICANN en Asie-Pacifique. Avec moi aujourd'hui, je vais vous présenter au reste de l'équipe Asie-Pacifique. Pour commencer, cette portion d'introduction devait être faite par Quack, qui est mon travail, qui est mon boss, qui est le vice-président pour Asie-Pacifique. Et puis l'autre vice-président qui est le vice-président pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique s'appelle Saudi. Ces deux personnes vont venir très bientôt. Ils avaient une autre réunion qui a dû dépasser. Je vais vous présenter 3 collègues qui seront là, qui vont me rejoindre pour la présentation ce matin. Kelvin Wang. Les responsabilités publiques et la sensibilisation. Il travaille avec beaucoup de sociétés civiles et d'utilisateurs finaux et aussi sur les structures à large. Et il travaille aussi avec les nouveaux venus et surtout la jeunesse pour qu'ils s'engagent dans l'ICANN. Et aussi, à côté de moi, Sanjun. Sanjun est basé à Pékin. Il est dans le centre d'engagement de Pékin. Il a beaucoup de travail avec les parties prenantes chinoises. Donc, si vous êtes avec si vous êtes chinois, si vous n'avez pas rencontré encore Sun Zhang, venez le rencontrer. Ensuite, nous avons Sam Ran, qui est basé à New Delhi. Il a beaucoup de travail puisqu'il a plus d'un milliard d'utilisateurs. Samurang, donc, se préoccupe des parties prenantes indiennes. Si vous ne l'avez pas encore rencontré et que vous êtes d'Asie du Sud, allez rencontrer Samurang. Nous sommes vos liaisons dans cette région et nous espérons pouvoir vous rencontrer. Certaines fois, vous allez peut-être voir que nous sommes toujours très pressés, mais si vous nous voyez un petit peu ralentir, venez nous dire bonjour. Dites-nous d'où vous êtes. Nous voulons vous connaître, c'est notre travail, parce que nous sommes partie de l'équipe d'engagement des parties prenantes globales. Assurez-vous que vous soyez en contact avec nous. Venez, présentez-vous à nous. Nous voulons vous aider avec vos réseaux ici. Aussi avec nous ce matin, qui nous soutient beaucoup, c'est le reste de l'équipe APAC, tous nos collègues qui sont tous là. Si vous voulez bien vous lever, levez-vous et voilà. Et voilà donc le reste de l'équipe Asie-Pacifique. Le plus grand défi pour nous, c'est, je le dis encore, je le dis et je le redirai, le plus grand défi quand on vient à une réunion d'Aiken, c'est d'être nouveau. Et on se dit, oh, je suis nouveau, je ne connais personne et c'est difficile pour moi d'aller dire bonjour à quelqu'un. Et surtout si vous êtes dans la culture asiatique, c'est très difficile quand on voit deux ou trois personnes et d'aller les interrompre et de dire bonjour et de se présenter. Mais c'est exactement ce que nous devons faire quand nous sommes à une réunion de l'ICANN. Quand on doit avoir la peau, la carapace épaisse, et il faut aller vers les gens et dire bon, je suis nouveau, est-ce que vous pouvez m'aider, dites-moi ce que vous connaissez sur l'ICANN, parce que moi je ne sais pas ce que c'est l'ICANN. Donc les gens seront intéressés à communiquer avec vous, surtout les gens qui sont inclus dans l'ICANN depuis longtemps, engagés dans l'ICANN depuis longtemps. Ils seront très très intéressés de savoir que vous venez faire partie de l'équipe. Et c'est très bon d'avoir un groupe aussi grand ce matin. Janice, son travail, ça a toujours été, disons que personne ne peut venir et dire... Bon, attendez, je vais essayer de réexpliquer. Son travail à Janice, on doit lui donner énormément de crédit parce que dans la CAN, nous devons dévouer beaucoup de temps, beaucoup de ressources pour amener de nouveaux venus. Et le travail de Janice, je l'apprécie énormément. Et j'espère que nous pourrons toujours la soutenir autant que possible et en tant que nouveau venu et en allant de l'avant en tant qu'ancien. J'espère que vous allez continuer à soutenir le travail de Janice pour qu'elle puisse encourager plus de nouveaux venus à l'ICANN. Donc, remercions Janice. Et bon, c'était une introduction de 10 minutes assez longue, mais bon, on va parler de la substance maintenant. Nous allons passer le micro à Calvin. Janice, ce micro. Calvin, respire un grand coup, là. Quand nos orateurs ne peuvent pas venir le matin, on se dit, ah, alors, on repasse le micro à Steve. Quand ça fait longtemps qu'on est à la CAN, on comprend, on sait que des choses se passent au dernier moment. Donc, au lieu de Calvin, on va parler de Steve qui est là. Steve, expliquez-nous comment tout cela a commencé. Donc, Steve au micro. Si vous me voyez avec mes écouteurs, je n'écoute pas du sport au micro ou une émission d'autre micro. Oh, il y a Nigel qui est là maintenant. Moi aussi, je peux respirer. Alors, je suis Steve Conti. Je suis avec l'équipe de sécurité et de résilience de l'ICANN. Nous en parlerons un peu plus tard de ce groupe dans l'après-midi. Je suis avec l'ICANN depuis 2002. Pendant 6 ans, j'étais donc avec la CAN, on était un groupe assez petit, personne ne nous connaissait, tout le monde pensait qu'on était le diable. Je travaillais avec le groupe IT, avec la sécurité, je fais partie de l'IANA aussi pendant un moment. Et il fallait donc faire plusieurs choses à l'époque. J'ai fait ça pendant assez longtemps. En 2008, je commençais avec l'Internet Society, j'ai travaillé là-bas pendant 5 ans. Durant les 2 dernières journées, j'ai rencontré des gens que je connaissais quand je faisais les boursiers de l'IETF. Fouaz, par exemple, Moaz, et 2 autres personnes que j'ai revues cette semaine, qui sont passées de l'IETF au travail à l'ICANN. Donc, c'est toujours bon de voir des anciens visages, de retrouver des visages, des gens qu'on connaissait. C'est toujours très intéressant. Et en 2014, je suis revenue vers l'ICANN pour travailler avec John et dans l'équipe de sécurité. Maintenant, je suis un petit peu vieux, ça me fait un peu peur d'ailleurs. Je vais passer à quelqu'un qui est encore plus vieux que moi. Je vais passer le micro à Nigel. Nigel, je pensais que tu allais faire l'introduction. Bon, bonjour. Bonjour. Il y a quelqu'un dans la salle? Bon, je me lève, je vais me lever. C'est plus facile. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des micros mobiles si vous voulez. Bonjour. Bonjour encore une fois, dit Nigel. Mon Dieu, est-ce que c'est dimanche? C'est pas possible. Allez. Aiken, il adore le dimanche. Personne ne pourrait accuser Aiken de ne pas être religieux. Nous, ça nous est égal quel est le jour de la semaine. Bon, c'est très bon de vous voir tous. Vous allez apprendre beaucoup au sujet de l'ICANN et de l'Internet. Et moi aussi, je vais aussi apprendre. J'apprends toujours. Qui est là? Il y a beaucoup de nationalités. Combien il y a de pays ici? Vous avez fait les introductions, vous savez combien il y a de pays ici. Non, on n'a pas fait ça, on n'a pas introduit. Les gens ne sont pas présentés. Qui vient de la Suisse? Une main s'est levée. Bon, moi je travaille à Genève, donc c'est bon d'avoir un Suisse dans la salle. Vous venez d'où? Ah, de Zurich. Oh, c'est très bien, oui, oui. Moi je suis donc à Genève, dit Nigel. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Nous allons regarder une vidéo. On va pas regarder une vidéo. Bon. Et ça, c'est mon travail, dit Janice. Non, fais ça, ça, c'est mon boulot. Janice dit, nous avons, vous dire que sur YouTube, il y a une vidéo de l'ancien directeur de l'ICANN de 2007, après avoir, moi, je suis arrivée quand Windsurf est parti, d'ailleurs. Donc, beaucoup de personnes connaissent Windsurf. En tant que l'évangéliste de l'Internet de la part de Google. Vince était associé de près avec l'ICANN et du modèle de l'ICANN, mais aussi très proche de l'écosystème de l'ICANN. Nous le connaissons en tant qu'un des pères fondateurs de l'Internet. Nous voulons vous dire qu'il y a une vidéo sur YouTube de Windsurf qui explique la formation de la famille de l'ICANN et du départ de l'Internet. Nous vous invitons donc à aller voir et écouter Vince sur YouTube. Mais là, on vous donnera ce lien, cette présentation. Vous pouvez aller sur le site web et la télécharger. Nigel au micro. Passons donc à quelques diapositives. On va parler de cela brièvement. On va faire des commentaires, Steve, là-dessus. C'est en histoire. Une chose intéressante, alors qu'il y a une histoire de l'Internet, il y a plusieurs, des histoires multiples de l'Internet. Nous parlons des débuts de l'Internet. Chaque région a une histoire de l'Internet. Chaque région est arrivé sur l'Internet de façon globale, chacune à sa manière. Ce qu'on voulait expliquer, c'est que au tout début, rappelez-vous, il y a beaucoup de choses en ligne. Si vous recherchez sur l'histoire de l'Internet, par exemple dans l'Asie-Pacifique, vous allez voir quels étaient les gens qui ont fait une différence dans votre région. C'est très important de comprendre cela de toute façon. J'ai été élevée, on m'a toujours dit que l'Internet avait été créé avec la technologie de communication d'étiquettes à l'époque, durant la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Alors que je me suis intéressée à l'histoire, j'ai vu que c'était les détails, c'était le côté un peu sexy, les choses à la télé, les gens faisaient attention parce que c'était sexy, on en parlait dans les médias. Mais il y a eu vraiment une augmentation de la communication. Et on s'est rendu compte que cela a augmenté les capacités pour que les universités et les professionnels puissent interagir pour pouvoir créer des choses meilleures, un monde meilleur. Sans parler de la guerre nucléaire, on sait que cela correspond à la technologie de commutation d'étiquettes, de paquets. Et cela est devenu beaucoup plus important que ce que Vince avait pensé.
Donc, dernière chose avant de repasser la parole à Nigel. En 69, je vous ai parlé de l'IETF auparavant, le groupe de travail de génie Internet. C'est un groupe d'individus, de scientifiques, d'universitaires, d'ingénieurs qui se sont réunis 3 fois par an et qui ont travaillé sur des protocoles ouverts pour l'Internet, comme le TCP/LP, etc., l'IP. Donc avant l'IETF, il y a eu un moment très important de l'histoire de l'Internet parce que ça a été la première période de commentaires qui a été initiée par Steve Crocker. Donc ça a été la première norme de l'Internet qui a été développée en 69 et qui est devenue une méthodologie courante. Donc je te repasse la parole, Nigel. Nigel au micro. Oui, tu aurais pu continuer sur l'histoire et je reprendrai ensuite. Donc Kelvin à nouveau au micro. Janice au micro. Vous voyez un petit peu à travers ces diapos qu'on ne veut pas trop vous assommer avec tous ces aspects technologiques dès le premier jour, mais il faut que vous sachiez que si vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants du point de vue technologique, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire partie de l'ICANN, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont centrées sur les politiques, par exemple. Donc on est là pour tous. On veut que tous les secteurs universitaires, publics, privés, participent, la société civile, les opérateurs de registre, les bureaux d'enregistrement et surtout les utilisateurs finaux, parce que finalement, c'est ce que nous sommes tous. Qu'on utilise un téléphone portable, une tablette, un ordinateur, en fin de compte, nous sommes tous des utilisateurs finaux. Donc c'est important qu'il y ait des connaissances de base technologique sur l'Internet, qu'on sache comment l'Internet a été créé. Donc je voulais le passer brièvement en revue parce que je ne voulais pas rentrer dans le détail des composantes techniques. Moi, je mets l'accent sur la composante humaine de l'Internet. Et l'un des aspects importants, ce sont les dates. Sur la première diapo, on a parlé de 1971 et ensuite on est passé à 98. Donc 30 ans pour arriver à ce où nous en sommes et voir l'évolution de l'Internet et l'évolution de l'ICANN. Il y a encore beaucoup à faire et cette histoire de l'Internet, finalement, aujourd'hui et le temps présent, c'est un excellent moment pour rejoindre l'ICANN. Comme Steve l'a dit, lorsque vous cliquez sur la réunion des nouveaux venus, vous pourrez obtenir cette présentation, la télécharger. Souvenez-vous qu'il s'agit, quel que soit votre âge ici dans la salle, sachez que l'Internet est pour tous un nouveau concept. Et ce que l'on fait maintenant, c'est de nous assurer que les politiques que nous créons puissent faire en sorte que ce processus continue d'être en évolution permanente. Donc, on va passer cela rapidement en revue, mais il est important de savoir que vous faites tous partie de cette histoire. Kelvin au micro. Alors, revenons aux années 70. Vous aimez cette période, hein, les années 70. Période dorée, n'est-ce pas? Bon, vous voyez les grandes dates, les dates marquantes de l'histoire de l'Internet. Donc, avant 69, l'Internet, c'était un texte, c'était se connecter à un écran, vous aviez un texte et tout était basé sur ou fondé sur le texte. Et c'était très ennuyeux pour tout le monde. Vous pouviez utiliser un programme qui s'appelait Gopher, utiliser une version mais c'était pas du tout attrayant. La plupart des personnes qui utilisaient cet Internet avant, c'était des universitaires, c'était des personnes qui l'utilisaient pour leur travail, à des fins universitaires. Et ensuite, il y a eu tout un changement. L'Internet est devenu imagé avec des graphes. Et ça a déclenché finalement ce qu'est l'Internet aujourd'hui, un environnement social et un village planétaire finalement. Et beaucoup des aspects de l'Internet actuel nous montrent que finalement toutes les parties intégrantes de l'Internet sont imbriquées les unes dans les autres. Il y a des milliards de courriels envoyés chaque jour. Mais c'est finalement le début d'une nouvelle période qui a marqué le début de ce qu'est l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je vous cède maintenant la parole dans un instant. Il en va de même au début de Google en 98. Avant cela, Webcrawler et d'autres chercheurs, je ne me souviens d'ailleurs plus de leur nom maintenant, ont modifié la manière dont les gens utilisaient l'Internet. Et toute cette bulle.com qui a eu lieu à cette époque a fait que l'Internet est devenu beaucoup plus ouvert. Avec l'incorporation de l'ICANN, on a décidé qu'il y avait un monopole par rapport au nom de domaine, parce que les noms de domaine étaient devenus un bien commercial. Donc, j'avais mon propre lopin de terre, entre guillemets, sur l'Internet, et il fallait le protéger et le conserver. Mais on n'en avait pas entendu parler avant. Si vous aviez un nom de domaine auparavant, vous étiez le seul acteur, finalement, en jeu. Donc, l'une des raisons pour lesquelles l'ICANN s'est développée, c'est parce que, justement, le champ d'action où les gens pouvaient acheter et vendre des noms de domaine était devenu de plus en plus grand. Oui, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, vous voyez ici à l'écran, période suivante, 2010. Avec l'apparition des selfies, d'Instagram, de toute cette mode de prendre des photos et de les poster sur Internet. Montrer également des recettes culinaires. Et aujourd'hui, on voit le résultat de ces recettes avec Instagram et les réseaux sociaux. Je passe maintenant la parole à Nigel. Oui, je vais un petit peu m'éloigner de la présentation à l'écran, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas vous parler tant de l'ICANN, mais de la manière dont l'ICANN s'inscrit dans toute cette histoire que vient de nous présenter Kelvin. Vous allez beaucoup entendre parler de l'ICANN cette semaine, voir comment l'ICANN s'intègre dans ce panorama général. Vous allez pas entendre parler de la structure de l'ICANN, des différents groupes communautaires. Et il y a beaucoup à apprendre là-dessus. Mais pourquoi êtes-vous là? Pourquoi est-ce qu'on vous raconte cette histoire à vous? Pourquoi est-ce que c'est important? Certains d'entre vous sont jeunes, d'autres moins jeunes. Et on vous parle d'une période d'il y a 20 ou 25 ans. Ne vous préoccupez pas tant de l'histoire de l'Internet, mais plutôt de ce que l'Internet représentait à l'époque. Moi, j'ai travaillé pour le gouvernement britannique pendant 30 ans et j'ai grandi avec l'Internet. J'étais ingénieur, pas très bon, c'est pour ça que je travaillais pour le gouvernement britannique. Mais j'ai grandi avec l'Internet. Et lorsque l'on parlait avec les ministres de l'époque, c'était très difficile de nous faire comprendre. L'Internet, c'était quelque chose d'excitant, d'émotionnant. Certains comprenaient que ça allait être un moteur de changement pour l'économie mondiale et dans les sociétés mondiales. Mais c'était très difficile de transmettre cette passion. Les gens, à l'époque, voyaient l'Internet comme quelque chose qui allait venir et venir et s'en aller. Et au Royaume-Uni, on voyait ça un petit peu comme un skate. C'est-à-dire que les gens qui... c'était finalement quelque chose qui était à la mode, le skate. On l'offrait aux enfants pour Noël. Et puis finalement, c'est passé de mode et c'est revenu à la mode. Donc pour eux, l'Internet, c'était un petit peu réservé aux élèves les plus brillants de l'école. Mais c'était finalement réservé à un petit public. C'était quelque chose auquel on ne pouvait pas faire confiance. Et finalement, c'est ça qui a changé. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est la manière dont l'Internet a évolué. La manière dont l'Internet est devenu si importante pour la société, pour nous, pour les économies et pour la société au niveau mondial. Ce qui fait que l'ICANN est si important, ce qui fait que cette conversation est si importante. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder présent à l'esprit. Parce que l'autre aspect important de l'Internet, c'est que l'Internet, c'est un réseau de réseaux. Comme vous le savez. Et à l'époque où l'Internet a évolué, on l'a vu comme étant capable de surmonter les barrières. Et c'était quelque chose de mondial. Ça allait nous permettre de surmonter les barrières nationales. Et pendant un moment, cette passion vis-à-vis de l'Internet nous a tous gagnés. La capacité de l'Internet de surmonter les frontières nationales. Mais bien entendu, on sait que ça n'est pas réaliste. L'Internet fait beaucoup de choses, mais les États nationaux continuent d'exister ainsi que les juridictions nationales. Donc, à mesure qu'on va rentrer dans le débat de la gouvernance de l'Internet, il faut reconnaître ce qu'est l'Internet et ce que n'est pas l'Internet. Donc, parlons un instant de la gouvernance de l'Internet. L'ICANN, comme vous le savez et comme vous allez de plus en plus savoir cette semaine, concerne surtout les noms et les nombres. L'ICANN, c'est un espace en termes de priorité des gouvernements nationaux. Nous avons un segment par rapport à cette priorité. Mais la gouvernance de l'Internet, c'est quelque chose de beaucoup plus large. La gouvernance de l'Internet, ça concerne la gouvernance de l'Internet, donc comment l'Internet est structuré, qui décide des noms de domaine, qui décide de la destination des adresses IP. Et ensuite, ça concerne la gouvernance sur l'Internet. Et c'est la gouvernance sur l'Internet qui est de plus importante pour nous, parce que la gouvernance sur l'Internet, ça concerne la confidentialité, la cybersécurité, c'est la protection de nos enfants, la fraude, la propriété intellectuelle. Bref, tous ces aspects que l'Internet a finalement amené sur le devant de la scène. Donc, on est tous concernés par la confidentialité sur l'Internet. Nous avons tous été confrontés au problème de la propriété intellectuelle sur l'Internet. Nous avions ces problèmes avant l'Internet, propriété intellectuelle, confidentialité, etc. Donc, tout cela a été amené sur le devant de la scène par la gouvernance sur l'Internet. Et ça, c'est très important parce que on ne peut pas réellement participer à cette expérience merveilleuse qu'est l'évolution de l'Internet sans comprendre réellement les questions sensibles et culturelles que pose l'Internet. Donc la gouvernance de l'Internet, c'est quelque chose que nous devons tous prendre en considération. L'ICANN, à cet égard, joue son rôle, mais joue son rôle dans cet écosystème, dans cette structure générale de la gouvernance. Et ça, c'est quelque chose que vous allez découvrir cette semaine. Donc on a parlé de, on va parler maintenant un petit peu de ces autres organisations que certains connaissent bien, d'autres moins bien. Mais par rapport à cette gouvernance de l'Internet, là encore, l'ICANN joue son rôle en termes de nom, d'adresse, mais l'ISOC a joué un rôle primordial. Est-ce que vous faites partie de l'ISOC? Est-ce que vous connaissez l'ISOC? Oui, certains d'entre vous en font partie. Moi, j'ai entendu parler de l'ISOC bien avant d'entendre parler de l'ICANN. L'ISOC a fait tellement bien entendu, nous avons aussi les fonctions techniques, les registres Internet régionaux, les autres regroupements et réseaux régionaux. Mais vous allez en apprendre un peu plus par la suite. Donc, passons à l'espace de la gouvernance Internet. Parce que sans trop mentionner les acronymes, j'aimerais que vous compreniez où s'intègre l'ICANN dans cette évolution incroyable dont je vous parle. Il est important de comprendre la gouvernance de l'Internet parce que cela est en perpétuelle évolution. Et il y a, et cela pose des défis en permanence. Mais j'y reviendrai par la suite. Donc, lorsque l'ICANN a été créé par le gouvernement des États-Unis, ça a été créé comme une organisation à but non lucratif, comme Steve l'a dit. Et ça a été une expérience très ambitieuse de la part du gouvernement des États-Unis, parce que cela faisait partie d'une structure technique de l'Internet qui était créée et confiée à la communauté. Et ça, ça a été très, très important. Et ça s'est produit à cette époque parce qu'avant 98, il y a eu des discussions sur le fait de savoir si cette fonction de nommage et d'adressage devait être confiée à l'UIT ou à d'autres organes des Nations Unies ou bien si cela devait être confié à une compagnie privée ou une organisation à but non lucratif. Et en 2003, nous avons eu le sommet mondial sur la société de l'information. Est-ce que quelqu'un y a participé en 2003? Quelqu'un dans la salle y a participé? Oui, je vois qu'un ou deux d'entre vous l'ont fait. Et pourquoi c'est important? Vous allez me dire, oh, c'est ennuyeux, il va encore nous parler du passé de 2003, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est important de comprendre cela parce que l'une des questions récurrentes que vous allez entendre cette semaine, lorsque l'on va parler de la gouvernance de l'Internet et de la manière dont l'ICANN s'intègre dans cela, c'est de savoir qui contrôle l'Internet, qui devait être responsable de l'Internet. Est-ce que la communauté est suffisamment mûre pour assumer ce rôle? Le rôle de nommage et d'adressage depuis 98. Est-ce que les gouvernements nous font réellement confiance? Ça, c'est au cœur des débats. En 2003, en 2005, nous avons eu le sommet mondial sur les sociétés de l'information. Ça a donné lieu à l'agenda de Tunis. C'est en quelque sorte un traité qui a découlé de ce sommet qui stipulait que les fonctions de nommage et d'adressage, les fonctions techniques, devraient être intégrées dans une structure multipartie prenante Et finalement, ça a permis de donner un élan à cette approche multipartie prenante sur laquelle est fondée l'ICANN. Puis-je intervenir ? Dit Steve. Steve au micro. Oui, l'une des choses importantes au début de l'Internet, c'est que c'était quelque chose extrêmement technique, presque entièrement technique. Et pendant 20 ans, je crois, ça a été le cas. Jusqu'à ce qu'il y ait un besoin de la part des utilisateurs qui ont dit, voilà, on a besoin de règles. On vient de différents pays et il faut pouvoir disposer de mécanismes communs. Et je crois que l'un des défis pour vous, en tout cas moi, ça a été ma difficulté en tant que nouveau venu à l'époque, c'est de comprendre qu'il y a deux mondes encore différents qui existent, le monde technique et le monde politique. Et comment est-ce que ces mondes peuvent se rencontrer, fusionner ? Il faut pouvoir développer et mettre en place un meilleur Internet. Mais comme l'a dit Nigel, il faut que les sociétés puissent trouver un espace où se rencontrer. Nigel au micro, oui, je ne vais pas beaucoup approfondir cette discussion parce que je vais vous laisser le temps de poser des questions, essayer d'approfondir par vous-même ces questions. Mais j'aimerais, si vous le permettez, revenir au sommet mondial sur la société de l'information pour une seconde, parce que c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est lié à quelque chose qui s'est passé cette année. Donc, ce sommet mondial sur la société de l'information était... Lors de ce sommet, il y a eu une réunion où les gouvernements étaient présents, la société civile, etc. Donc ça a donné lieu à l'agenda de Tunis qui a jeté les bases de toute une série d'actions que la société devait entreprendre. Ça a donné lieu donc au SMSI, Sommet mondial sur la société de l'information. Et ça, ça va au-delà de la gouvernance de l'Internet, ça va. Ça concerne l'accessibilité, le multilinguisme, les compétences, l'e-gouvernance ou la gouvernance électronique et bien d'autres termes. Et toutes ces priorités du SMSI vont être revues par les Nations Unies à la fin de cette année. C'est essentiel parce que, comme Steve l'a dit, les choses ont beaucoup changé depuis 2003. À l'époque, en 2003, comme je vous l'ai dit, nous étions en train de conseiller les gouvernements, les ministres, les ministères, etc. Mais aujourd'hui, alors qu'on s'achemine vers les débats avec les Nations Unies à la fin de cette année, chaque gouvernement impliqué dans ces discussions reconnaît l'importance de l'Internet. Votre gouvernement, tous les gouvernements de vos pays que vous représentez, ou plutôt dans lesquels vous résidez, reconnaissent cette importance. Bien entendu, il y a différents niveaux de capacité. Il y a encore beaucoup à faire dans la communauté mondiale en termes d'accessibilité, en termes de multilinguisme, en termes de capacité de surmonter le fossé numérique. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Mais tous vos gouvernements, aujourd'hui, comprennent l'importance de l'Internet, comprennent l'importance de l'Internet vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis de la citoyenneté, de la sécurité et bien d'autres aspects. Et ça, c'est essentiel, parce que cela veut dire que lorsque l'ONU va se réunir à la fin de l'année pour débattre de ce qui se passe depuis 2003, eh bien, les ministres, les fonctionnaires seront beaucoup plus et beaucoup mieux informés qu'à l'époque, parce que l'Internet est devenu ce qu'il est devenu. Mais parce qu'ils comprennent, parce qu'ils ont bien saisi l'importance de l'Internet et saisi l'importance de ces discussions, parce que ce qui fait que c'est si important pour nous, c'est justement le fait que l'Internet est ouvert et disponible pour tous. Pourquoi est-ce que l'ICANN existerait si nous n'avions pas un Internet ouvert? Parce que le fait que l'Internet soit ouvert, c'est fondamental. Quel serait le sens de ces investissements dans les nouveaux GTLD? Quel serait le sens pour que vos pays aient un site web si ce site web n'était pas disponible ou accessible au niveau mondial? Quel serait le sens de dépenser autant d'argent dans l'innovation d'applications pour l'Internet si elles ne peuvent pas être disponibles pour un public mondial? Donc c'est cette capacité de l'Internet à toucher tout le monde qui est essentielle pour sa réussite. Et ça, c'est l'une des discussions qu'on va avoir lors de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est l'ouverture de l'Internet. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut garantir pour l'avenir? Et nous avons tous un rôle à jouer là-dessus. Bien entendu, les gouvernements sont concernés à juste titre par rapport à la sécurité, à la cybersécurité, à la protection des enfants, concernés par la fraude à juste titre, concernés par la protection de la propriété intellectuelle. Mais il faut que certaines de ces organisations internationales comme l'OMPI, l'OMC, voient nos propositions. Mais finalement, le cœur de tout cela, c'est que l'Internet doit être ouvert. Il faut nous assurer que l'on peut prendre en considération les préoccupations de ces gouvernements tout en garantissant un Internet ouvert. Parce que si l'on perd l'ouverture de l'Internet, on perd l'une des structures fondamentales, l'un des objectifs premiers des créateurs de l'Internet qui ont passé tant de temps à s'assurer que l'on puisse disposer d'une plateforme technique aussi utile. Mais les décideurs politiques, les gouvernements, s'ils limitent l'accès à Internet, alors nous aurons échoué. Et l'ICANN, à cet égard, a un rôle extrêmement important à jouer par rapport au nommage et au nombre. Mais on joue ce rôle tandis que d'autres jouent un autre rôle. Mais on devrait tous avoir un objectif commun, avoir un Internet ouvert et disponible pour tous. Je pense que quelqu'un va reprendre la parole maintenant et je reprendrai la parole par la suite. Janice au micro. Applaudissements dans la salle. Merci. Janice au micro. Oui, c'est finalement cette passion qu'on essaie de vous transmettre. Merci, Nigel. On n'en a pas encore fini avec toi, mais j'aimerais faire un commentaire. Je me mets à votre place et laissez-moi vous dire qu'il y a 8 ou 5 ans, on n'avait pas cette discussion. Et lorsque j'écoute ce genre de débat, je me pose la question, si j'étais à votre place, je vous demanderais, vous ne m'avez pas encore dit pourquoi est-ce que je ne devrais pas investir de mon temps et de mon énergie à l'ICANN pour participer peut-être à d'autres organisations qui sont peut-être plus accessibles, qui offrent des forums de discussion. Parce que lorsque je regarde le forum sur la gouvernance de l'Internet, lorsque je regarde ce qui se passe à l'UIT, alors pourquoi ne pas choisir de participer à ces discussions au sein de ces autres organisations plutôt que d'y participer à l'ICANN? Oui, je vois qu'il y a une question dans la salle. Merci, Janice. Personne dans la salle au micro, je crois que j'aurai un moment dans la journée pour parler de cela. Donc, soyez attentifs. Steve au micro. Janice, mais pourquoi ne pas faire cela en même temps? Pourquoi ne pas participer à d'autres organismes qui sont importants pour vous? Il y a des personnes de l'IEDF qui font partie de cela. Donc, ne vous limitez pas à participer à une organisation, participez à plusieurs.
Ahmadissa, du Soudan. Je pense que j'aime beaucoup cette session. Cela me rappelle le bon souvenir. En 1983, quand j'ai passé mon master à l'université américaine, c'est la première fois que j'utilisais des ordinateurs à l'époque. Donc en 83, tous les systèmes utilisaient des systèmes qui nous demandaient d'utiliser des choses différentes, de pays différents, et nous devons appeler plusieurs compagnies, et cela prenait des heures. Si vous comparez avec ce qui se passe maintenant, c'était donc très primitif. Mais à l'époque, je n'avais pas ça au Soudan, donc quand je suis rentrée aux États-Unis, je savais utiliser un ordinateur. Et je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas de système informatique au Soudan. Et notre ministre de l'Éducation s'en est occupé en 89. Mais moi, je ne pouvais pas utiliser tout ce que j'avais étudié. Et j'étais très triste parce que je ne pouvais pas retourner et utiliser cela. Il y a eu donc une amélioration dans les années 90, milieu 90. Et là, on avait Windows et on pouvait se connecter. Et un peu plus tard, ICANN a amélioré les choses. En 2000 et quelques, j'ai rencontré quelqu'un à Londres et c'est une personne que j'ai remerciée. Oh, j'ai rencontré Cerf et je l'ai remercié pour avoir facilité nos missions. Et aussi, merci à ICANN parce qu'ils ont amélioré le DNS. Sans cela, nous ne pourrions pas rendre les choses faciles sur Internet. Il y a d'autres questions. Si je suis là à l'ICANN, c'est pour pouvoir apprendre plus. Parce que je travaillais avec ITU et dans le WISIS depuis 2009. Avec des exhibitions, des groupes de travail, à distance, participation à distance. Et tout cela m'a rendu plus familier avec les systèmes. Mais à l'ICANN, il y a une approche différente parce qu'ils améliorent tout ce qui est... Ils font plein de choses qui ne peuvent pas être faites par ITU. Nous voulons donc que l'ICANN améliore la transition des protocoles Internet vers l'IPv6 pour pouvoir rentrer de façon plus profonde dans l'Internet. L'Internet, ce n'est pas de la nourriture, de l'eau, des vêtements, mais c'est important pour le monde. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'exemples que je pourrais citer de ce côté-là. Je vous remercie. Janice Lang, y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires que nous pouvons poser ou proposer à Nigel? Ashafat, d'Indonésie. Ma question pour Nigel. Vous nous disiez que l'Internet devrait être donc... multipartite. Quels sont les paramètres que vous utilisez pour mesurer les multiparties prenantes? Spencer Thomas de Grenade. Quand on parle de l'histoire, vous pouvez nous dire quelque chose qui, d'un point de vue historique, qui n'a pas fonctionné? Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et Janice, oui, nous allons revenir sur la question de multiparties prenantes. Nous allons pas parler, nous allons pas vous répondre maintenant parce que cela fait partie de notre prochain segment. Alors, Steve au micro. Oui, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il y a tellement de choses qui n'ont pas fonctionné. Le DNSSEC, par exemple, pour la sécurité. Les ingénieurs ont passé 10 ans là-dessus. Et un jour, je pense que à peu près il y a 5 ou 6 ans, quelqu'un a dit, il y a une partie là qui est cruciale et qui ne fonctionne pas. Et cela casse le protocole en général. Et tous les ingénieurs du DNSSEC ont dit, oh non, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont dû prendre une décision, ils devaient continuer avec ce qu'ils avaient, ou ils devaient éliminer tout le programme. Ils ont décidé de tout éliminer, le projet a été éliminé, et ils ont décidé de recommencer au départ. À cause de ça, nous avons maintenant donc des protocoles d'extension DNSSEC plus robustes à cause du travail et des connaissances qui avaient été obtenues. Et donc, un meilleur protocole nous donne un meilleur produit et une meilleure expérience. Il y a des milliers d'exemples comme ça, de choses qui n'ont pas fonctionné. Et nous, dans le modèle ACAN, nous avons pu essayer de comprendre quels étaient les différents aspects. C'est un groupe, c'est un corps de travail qui évolue sans arrêt. Et nous, en tant que partie de la communauté, nous pouvons identifier des tas de choses encore de nos jours qui ne fonctionnent pas et il y aura des changements à faire. Janice, ce que je voulais dire, c'est que c'était, bon, pour l'instant, une bonne discussion pour pouvoir rencontrer des membres de la communauté. Et voilà, ce sont des bonnes discussions que vous pouvez avoir avec les autres membres de la communauté. Ça peut être des choses fun, ludiques. Je ne veux pas dire qu'on va en rire, mais cela permet d'avoir des conversations avec eux pour qu'ils puissent faire, qu'ils soient un peu moins sérieux pour les sortir du travail qu'ils font en ce moment. Donc ça, je dis ça très très sérieusement, vraiment durant cette semaine très très stressante. Quand vous rencontrerez les membres de notre communauté, parlez-leur et ainsi ils peuvent vous raconter ces histoires. Et puis quand on parlait de DNSSEC, je pense qu'il a une session pour les nouveaux venus pour à 5h, à 17h demain, et j'en parlerai encore cet après-midi en fin de réunion. DNSSEC, c'est une partie importante de nos vies en tant qu'utilisateurs finaux quand on parle de la cybersécurité. Donc, les personnes qui ont cette session à 17h demain, vous saurez que c'est une réunion engageante, interactive, facile à comprendre. Pour ceux qui d'entre nous qui ne comprennent pas très bien toutes les choses techniques et de sécurité, DNSSEC pour les nouveaux venus, je peux vous dire, je vous le dis rapidement, c'est que c'est une très bonne session. Si vous allez demain à 17h, ça vous permettra d'apprendre quelque chose cette semaine. Et nous allons passer le micro à quelqu'un d'autre. Oh, Safiran. Merci, Safiran, micro. Merci, Nigel, pour cette présentation. Je voulais parler brièvement de comment l'ICANN fait son travail. Comment cela fonctionne? Il s'agit de, pour atteindre quelqu'un d'autre sur l'Internet, pour connecter à quelqu'un d'autre sur Internet, il faut avoir une adresse unique et un identifiant unique. C'est soit un nom ou un nombre. Et donc, l'ICANN aide à coordonner pour que les gens puissent se connecter entre eux. Cela rend l'Internet interactif. Nous continuons donc à faire ce travail et améliorer ces processus. Un très bon exemple de ce que nous faisons, c'est les IDN. IDN. Et aussi de développer ces IDN, nous continuons à travailler avec la communauté technique, avec les académies, les utilisateurs finaux pour pouvoir obtenir des IDN pour que les gens puissent continuer à utiliser Internet dans des langages différents, dans des langues différentes. Donc, à la base, c'est ça. Je suis sûre que vous aurez l'occasion d'en parler plus longuement. Nous allons faire une petite pause. Nous avons un invité surprise, comme l'a dit Janice, qui est assis devant nous, Fadi Gerhadé, donc le CEO, le PDG de ICANN. Nous allons donc l'applaudir. Bon, Fadi Gerhadé au micro. Bonjour à tous, bienvenue à l'ICANN. Je suis heureux que vous soyez là. Je suis Fadi. Je dois vous dire, rappelez-vous cela toute la semaine. Vous êtes les personnes les plus importantes de l'ICANN 52. Vous êtes. Vous devez penser comme cela, parce que le processus, malgré ce que dit Janice, ne va pas forcément vous donner cette impression-là. Vous allez vous sentir perdu dans une mer de réunions, d'activités, vous allez dans un océan d'activités, de réunions. Mais le fait que vous soyez ici, que la communauté de l'ICANN puisse se régénérer, c'est la chose, le trésor le plus important de l'ICANN. C'est un endroit un peu spécial, un peu étrange. Il n'y a pas de carte de membre, il n'y a pas de personne qui va vous dire, qui va vous mettre sur un piédestal parce que vous êtes là. Tout le système de gouvernance du monde ont une approche bien plus structurée. Nous ne sommes pas comme cela à l'ICANN. Ici, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous a quelque chose à dire, peut apporter quelque chose à la table, peut participer pour pouvoir construire le fonctionnement de l'ICANN. Et c'est fantastique. Moi, je viens de sortir d'une réunion où un avocat un peu plus âgé de Washington qui s'occupe des politiques de propriété intellectuelle et qui nous a dit, j'étais dans une association d'avocats, j'étais avec des groupes gouvernementaux des Nations Unies, dans des tas d'endroits pour faire de mon travail. Je n'ai jamais vu un endroit où je puisse arriver, m'asseoir à la table et faire un commentaire et commencer à faire est-ce que les choses fonctionnent et parler tout de suite au PDG. Vous n'allez peut-être pas vous sentir comme ça cette semaine. Vous allez peut-être voir des murs autour des activités, des réunions. Mais c'est pour ça que cette équipe est là. Nous sommes là pour vous aider à naviguer. Mais il y a une chose que j'espère que vous n'allez pas oublier, c'est que votre voix, votre opinion, ce que vous êtes là, ce que vous voulez dire, va être entendu de façon immédiate. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un endroit dans le monde où cela se passe ainsi. Donc, prenez avantage de cela, profitez de cela. Si cela ne fonctionne pas, écrivez-moi. Dites-moi que c'était une promesse qui n'a pas été entendue. Que ICANN, on ne m'a pas entendu, je n'ai pas pu être entendu. C'est très important que vous ne sentiez pas cela. Autre chose que je voulais vous dire, il y a 3 ans, moi, je ne savais pas épeler le mot ICANN. Donc, je suis nouveau à cette communauté ici. Comme vous, beaucoup d'entre vous se sentent aujourd'hui, depuis 30 ans, j'ai compris. J'ai construit beaucoup de valeurs sur l'Internet. J'ai construit beaucoup d'Internet, de business sur l'Internet. Donc, j'ai profité de cette chose incroyable qui s'appelle l'Internet, moi aussi. Donc, quand je suis arrivée à l'ICANN, je suis venue, je me suis dit qu'il était temps de comprendre comment tout cela fonctionnait, comment cela a été construit. Il était temps pour moi de redonner à cette belle entreprise qu'est l'Internet. Donc, je vais vous dire une chose. L'Internet, ce n'est pas un réseau. Combien il y a de réseaux? Il y a quelque 90 000 réseaux. L'Internet, ce n'est pas un réseau. C'est fragmenté au niveau de l'infrastructure. Bien sûr, quand vous touchez sur l'Internet, sur votre mobile ou sur votre Android, sur votre ordi, vous touchez des applications comme... toutes les applications que vous utilisez, des millions d'applications qui sont très fragmentées. Donc, l'utilisation de l'Internet est très, très fragmentée. Comment est-ce que tout cela devient l'Internet quand les applications elles-mêmes sont fragmentées et que les réseaux sont fragmentés? Qu'est-ce qu'on appelle l'Internet? C'est à cause de ce que fait l'ICANN. C'est pour cela que l'ICANN est important. parce qu'à travers les identifiants uniques, comme Simon vous le disait tout à l'heure, les noms, les nombres, les protocoles, les paramètres de protocole, l'Internet donne l'impression d'être un réseau. Quand vous typez www.ican.org de n'importe où sur la planète et que vous aurez les réponses sur votre mobile, vous savez, tout cela passe à travers les systèmes de l'Internet, de l'ICANN. Et vous savez que quand vous demandez cela, vous allez directement toujours sur ICANN.org. Par exemple, quand vous marquez ICANN.com, vous n'allez pas sur dominospizza.com. Ça a l'air d'être simple, mais en fait, tout cela est important. Le fait que le DNS n'ait jamais eu d'échec, c'est très important. Donc, quand on parle de la sécurité, de la stabilité du système, nous savons que c'est très important. C'est notre engagement à nous. Et il y a des gens qui aimeraient que vous puissiez écrire ICANN.org dans votre pays et vous retrouver quelque part dans un autre lieu, dans un autre espace. Il y a des pays qui aimeraient cela, en fait, qui aimeraient pouvoir contrôler quand vous cliquez, par exemple, IBM.com, que vous n'atteindrez pas cette compagnie. Vous aurez peut-être la division d'IBM de ce pays qui peut être restreinte dans certaines façons. Donc, faites très attention. Ce n'est pas un problème théorique, en fait, la fragmentation de l'Internet. Où est-ce que cela commence? Cela ne commence pas au niveau de l'infrastructure. L'infrastructure est déjà là. Elle est déjà fragmentée. Les applications aussi sont fragmentées. La partie qui n'est pas fragmentée, c'est ce que fait l'ICANN. Il y a des gens qui essayent d'essayer de prendre de la nature de ce que l'on fait nous et avoir leur propre utilisation de l'Internet. Il y a un pays qui est déjà une racine, autre racine pour l'Internet. Ce n'est pas encore démarré. Si elle démarrait, alors les gens de ce pays, quand ils mettraient ICANN.org, ils atteindraient un bureau du gouvernement de ce pays, .org par exemple. Donc c'est une responsabilité qui est sérieuse, que nous avons tous, pas seulement moi, le personnel, même le bureau d'administration, mais chacun d'entre nous, nous avons tous cette responsabilité. Donc, quand vous rentrez chez vous, dans vos pays, quand vous rentrez vers les gens, que vous parlez à les personnes importantes dans votre gouvernement, vos politiques, vous devez leur démontrer que tout cela est important. Le travail de l'ICANN, c'est notre travail. Passez donc une semaine incroyable. C'est votre ICANN, ce n'est pas mon ICANN. Je suis à votre service. Chacun d'entre nous qui travaillons à l'ICANN, nous n'avons pas un statut vis-à-vis de vous, comme vous, parce que vous êtes volontaire, vous êtes là pour servir l'ICANN. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est la mentalité de l'ICANN. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon président, par exemple, Monsieur Crocker, et il a toujours conduit une voiture toute simple comme une Honda. Nous sommes des gens simples. Nous avons un but. Nous ne sommes pas là pour juste faire de l'argent. Moi, je sais bien que faire de l'argent, c'est important. Moi, je fais beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens dans cette conférence qui font beaucoup d'argent avec l'Internet. Mais notre but collectif, c'est l'intérêt public. Et notre travail à l'ICANN, c'est de pouvoir équilibrer tous les intérêts pour nous assurer que les business fonctionnent bien, que les gouvernements puissent continuer à faire leurs travaux importants, que la société civile fasse un bon travail. Donc, à la fin, les décisions sont faites dans l'intérêt public. Et bienvenue encore une fois à l'ICANN. J'espère que vous allez avoir une bonne semaine de réunion. Janice Lang, merci Fad, et nous apprécions votre temps. Il vient quand il peut trouver du temps, mais il continue toujours à essayer de trouver un petit peu de temps pour nous. Donc maintenant, nous pouvons passer à la discussion suivante en parlant du rôle de l'ICANN avec notre équipe Asie. Et je vais vous passer le micro. Et nous allons pouvoir suivre ce dont Fadi a parlé. Samourank, au micro, il a parlé de la façon unique dont l'ICANN travaille. Donc, il a parlé de la fragmentation, par exemple. On utilise toutes ces applications, chacun d'entre nous, on utilise des applications différentes. Et ce que fait l'ICANN, c'est qu'elle fait l'union entre tout cela. Quand on revient en arrière sur notre présentation, que vous voyez le graphique sur l'écran, le tableau sur l'écran, vous pourrez voir un peu tout le travail que vous voyez derrière tout cela, les opérations, la coordination. Il y a beaucoup de travail qui se fait derrière le rideau, disons, derrière la scène. Et on en parlera un peu plus cet après-midi, parce que nous allons expliquer toutes les stations variées que vous voyez sur cette diapo, dans les coulisses.
All right, this is my turn.
Oui, c'est Milton au micro. Avant de commencer, je voudrais vous présenter Quick. Quick, qui est le vice-président pour AJA. Je vais parler de lui tout à l'heure. Et donc, d'abord, je voudrais passer le micro à Quick. Quick au micro. Merci, Jarong. En premier, bienvenue à Singapour. Comme Jarong et d'autres dans l'équipe, je suis de Singapour, donc c'est vraiment naturel pour nous de vous souhaiter la bienvenue à Singapour. Quand vous venez ici pour les réunions de l'ICANN, vous avez réalisé qu'il y a beaucoup d'informations disponibles, beaucoup de sessions disponibles. Essayez de prendre un petit peu de temps pour vous, en dehors de l'ordre du jour, d'emploi du temps, pour voir un petit peu plus de la ville, du pays. Très peu de gens ici peuvent vous dire. Je vous vraiment suggère beaucoup. Les gens vont pas vous dire ça, mais moi, je vous suggère de faire cela. Vous allez peut-être aussi réaliser qu'à une réunion ICANN, à un certain moment, il y a 6 ou 7 réunions qui se passent, qui sont en même temps. Donc, moi, je suis encore une fois, je m'excuse. Je suis en retard. J'étais à la réunion d'At-Large. Il y a des tas de réunions en ce moment, GNSO, CCNSO, toutes ces abréviations que vous allez entendre durant la journée. Prenez donc la chance d'aller dans les salles différentes durant la semaine. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas forcément tout ce qui se passe dès le départ. Moi, cela fait 1 an et demi que je fais partie de cette communauté. Et quand je suis arrivée, je ne comprenais pas tout. Mais il faut commencer quelque part. Et aujourd'hui, c'est une bonne idée de commencer. Et surtout, je voulais vous dire que s'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin durant la semaine, contactez-moi ou quelqu'un dans mon équipe. Nous avons des étiquettes bleues et cela dit staff, personnel. Nous sommes là pour vous aider. Nous ferons tout ce que vous pourrons pour vous aider. Il y a un stand d'information pour les nouveaux venus. Nous sommes là pour vous aider. Janice et son équipe sont toujours là pour vous aider. Donc, un petit détour dans la conversation par rapport à la présentation que Jarong allait faire, mais je voulais m'assurer de vous souhaiter la bienvenue à Singapour. Jarong au micro, merci, Quick. Donc, je me suis dit, oh là là, je prends la relève après Nigel qui était si passionné dans sa présentation, ça va être très difficile, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour être un petit peu moins réservée que j'en ai l'habitude en étant asiatique. Il y avait 2 questions importantes. Quel est le modèle multipartite et pourquoi devons-nous tous nous engager? Fanny en a un peu parlé. Je pense qu'on a mentionné, je vais peut-être mentionner 2 exemples pour illustrer cela un peu mieux. Quand ICANN a commencé, nous avions besoin d'une organisation pour coordonner le DNS, pour que tous les serveurs, il n'y pouvait pas avoir 2 serveurs identiques qui avaient le même une adresse IP identique. Pour que l'ordinateur puisse traduire l'adresse IP correctement. Donc, il ne pouvait y avoir qu'un corps de coordination, un seul. Ça aurait pu être l'ITU ou le gouvernement américain, qui que ce soit. Mais le gouvernement américain quand ils ont incorporé l'ICANN, ils avaient l'idée que l'ICANN ne soit pas dominé ou géré par une personne, une organisation ou un corps simple. Donc, l'idée est venue d'avoir une organisation privée qui serait gérée par de multiparties prenantes. Et donc, à l'époque, nous pouvons utiliser une analogie corporelle. Si, par exemple, dans une compagnie privée, vous avez des parties prenantes, nous n'achetons pas des parts chez ICANN. Nous sommes seulement des parties prenantes. Je vais vous utiliser deux exemples. Pourquoi est-ce que ce modèle multipartie prenante a été envisagé au départ? Par exemple, pour moi, d'une perspective asiatique, je suis très habituée à des processus gérés par le gouvernement. Mais depuis 1998, ces modèles multiparties prenantes fonctionnent. Le premier bon exemple serait .com boom. Durant le boom des .com, tout le monde commençait à acheter des DNS. Donc, les compagnies voulaient tous avoir des DNS. Le problème, c'était les problèmes de cyber. Par exemple, McDonald's.com, McDonald's, une fois qu'il voulait son DNS, combien il voulait dépenser? Il y avait donc du courting, du cyber-courting à l'époque. Il y a eu plusieurs cas. Est-ce que c'était un gouvernement qui allait décider? Ah oui, rendez le DNS à la compagnie qui en est propriétaire. Et par exemple, si le McDonald's enregistrait sa marque aux États-Unis, elle était enregistrée aux États-Unis, que dans un autre pays, il fallait qu'il y ait des juridictions qui soient mises en place pour pas que le nom de McDonald's soit volé, disons. Il fallait donc coordonner le DNS. Ce qui s'est passé, ICANN, cette communauté multipartie prenante de l'ICANN, a dit, pourquoi ne faites-vous pas un rapport sur ce qu'on peut faire pour se préoccuper de toutes ces situations? Et on s'est rendu compte que la communauté multipartie prenante pouvait adopter ce rapport, le rapport qui a été fait en 89, assez rapidement d'ailleurs. Et ces politiques qui ont été adoptées sont devenues des politiques que nous suivons aujourd'hui quand quelqu'un d'autre essayait de squatter sur votre nom de compagnie où vous aviez donc une marque déposée. Cela vous permettait de reprendre votre DNS, votre DN. Par exemple, eBay vient de gagner un cas à travers les politiques dont je viens de mentionner. Ils ont repris plus de 1000 de leurs noms de domaine. Quand quelqu'un veut acheter un ebay.com, un 2-3 ebay.com, ils ont repris plus de 1000 de ces noms de domaine en utilisant ces politiques qui avaient été développées à travers le modèle multipartie prenante de l'ICANN. Nous venons ici représentant de certaines organisations, certains commerces. Mais quand on parle des processus de l'ICANN, nous savons que nous faisons un service public. Nous ne faisons pas les politiques. Nous facilitons ces politiques. Mais tout le travail qui se fait dans les différents groupes multipartites de l'ICANN, cela vient de vous. C'est pour cela que c'est important d'avoir ce modèle en place.
Vous voyez sur cette diapo qu'il y a beaucoup de groupes multipartites prenantes qui peuvent être divisés en catégories, société civile, utilisateurs finaux, ça peut être quelqu'un qui veut avoir accès à un site en particulier, mais qui ne peut pas y avoir accès. Donc ça, c'est un problème. Autre organisation qui contrôle la distribution des adresses IP. Experts, que se passe-t-il lorsque lorsque je tape ican.org, j'arrive sur le site de Domino Pizza. Gouvernement et ONG, c'est très important que les gouvernements participent parce qu'on peut ensuite coordonner à l'intérieur d'un pays et entre les juridictions pour voir comment les politiques travaillent dans l'ensemble du DNS. Donc ça, on en a déjà parlé. Alors c'est un petit peu confus de voir toute cette perspective, cette vision d'ensemble. Bien, je comprends cette vision d'ensemble, mais comment chaque chose s'intègre individuellement ? C'est important de voir comment l'ICANN est structuré. L'ICANN est structuré d'une certaine manière. Vous pouvez trouver un espace où vous pouvez vous rendre et aborder telle ou telle question. Je vous ai parlé auparavant d'une politique de résolution qui fait partie de la GNSO. Et sous la GNSO, il y a également un segment, ça fait partie de la bulle verte, avec les intérêts IP. Ce sont les personnes qui travaillent sur la propriété intellectuelle et qui débattent de ces questions. Ensuite, ASO, ce sont les organisations de soutien des adresses. J'oublie parfois les acronymes. J'ai tendance à utiliser les acronymes et j'oublie parfois ce qu'ils représentent. Donc, je vous parlais des organisations qui aident à distribuer les adresses IP dans le monde. Ensuite, vous avez la CCNSO. Vous avez une question dans la salle ? Il y a une question ? Excusez-moi d'intervenir. Je m'appelle Laurence. Je viens du Nigeria. J'aimerais savoir s'il y a une différence entre l'ASO et la NRO. Parce que j'ai remarqué qu'il y a ce groupe à gauche, ASO, et il y a un groupe, le NRO, qui faisait partie de la liste des organisations de soutien, mais qui ne fait pas partie de ce diagramme. Donc j'aimerais savoir si, au sein de ces 5 organisations de soutien, figure la NRO. Steve au micro. Oui, merci de cette question. L'ASO, c'est l'organisation reconnue qui soutient les décisions du conseil d'administration, qui envoie des informations au conseil d'administration et aide à faire en sorte que le processus à l'ICANN fonctionne. Et il comprend presque toutes les mêmes organisations. Ensuite, il y a les registres Internet régionaux qui concernent le nommage au sein de leur communauté. Donc, ils vont prendre des décisions en fonction du modèle de déploiement IPv4 et pour s'assurer que chaque registre a une part équitable avant le déploiement de l'IPv4. Il travaille sur des politiques concernant l'allouement de l'espace IPv6, voir s'il est raisonnable qu'un registre demande à l'IANA plus d'espace. Donc, il s'agit d'un organe qui concentre finalement son propre forum et son propre espace. Et ensuite, il y a un feedback vis-à-vis du processus de l'ICANN. Merci, Steve. Alors, je ne savais pas si je devais rentrer dans le détail de tout cela, mais je vais prendre un petit peu de recul et vous donner une image d'ensemble. Et ensuite, céder la parole à mes collègues qui rentreront dans le détail. Donc, en fonction du groupe auquel vous participez ou auquel vous appartenez, ou en fonction des intérêts que vous avez, nous sommes structurés de différentes manières. D'abord, il y a des organisations de soutien. Vous voyez ici les AS, donc organisations de soutien. Les organisations de soutien aident à faire des politiques à l'ICANN. Donc il y a plusieurs activités concernant les politiques sur différentes questions liées au nom de domaine, nom et adresse. Et ensuite, cette politique avance. Et lorsqu'il y a consensus au sein de la communauté, alors la politique avance et est envoyée au conseil d'administration. Ensuite, il y a les comités consultatifs. Ce sont les AC, dans leur acronyme en anglais, le ERSAC, le ESSAC, SSAC et ALAC. Donc, ces communautés contribuent vis-à-vis de ces politiques en disant, voilà, on pense que c'est une bonne idée ou ça n'est pas une bonne idée. Et cela est renvoyé au conseil d'administration qui prend une décision sur une question particulière. Donc, la division, c'est entre organisation de soutien, comité consultatif, et en fonction de votre intérêt particulier, de l'organisation que vous représentez, vous pouvez être membre de tel ou tel groupe. Sur ce diagramme, vous voyez un petit peu la manière dont nous structurons les débats. C'est la manière dont l'ICANN est structurée depuis sa création et la manière dont l'ICANN a évolué avec le temps. Donc voilà ce que je viens de vous décrire un petit peu, ce qui figure à l'écran. Les organisations de soutien, les comités consultatifs et également les organes consultatifs. Fadi vient de l'évoquer. Il y a les protocoles, mais également l'ICANN fixe différentes normes qui sont fixées par l'IETF. Par exemple, l'IETF décide de la durée de tel ou tel paquet. Et ensuite, au niveau mondial, tout le monde adopte cela pour qu'on puisse tous parler la même langue. Si on ne parle pas tous la même langue, on ne peut pas se comprendre. Et au sein de ces trois structures, en fonction du pays dont vous venez, de ce qui vous intéresse, essayez de rejoindre telle ou telle organisation, que ce soit les organisations de soutien, les comités consultatifs. Et c'est très difficile lorsqu'on commence parce que certaines de ces organisations travaillent depuis longtemps, mais là encore, je vous l'ai dit, vous pouvez nous arrêter à tout moment dans les couloirs et nous dire, voilà, je ne comprends pas ce que vous faites exactement. Vous pouvez m'expliquer? Oui. David du Pakistan au micro. Je suis boursier. Je voulais demander. On ne cesse de nous dire qu'il y a des comités consultatifs, mais peut-être qu'il serait plus utile de comprendre en quoi consiste leur conseil dans tout ce processus. Quel type de conseil? Le GAC a un rôle différent de celui de l'ALAC et des autres comités consultatifs. Donc, avez-vous quelque chose à dire par rapport à cela? Peut-être que ce serait utile. Oui, peut-être que mes collègues peuvent m'aider là-dessus. Très brièvement, les conseils sont très souvent liés à la manière dont une politique est d'ores et déjà structurée. Janice, au micro. Oui, je vais te donner un coup de main là-dessus. Exemple intéressant qui est survenu au cours des dernières réunions, ce sont les nouveaux noms de domaines génériques de premier niveau. Si vous pensez aux organisations de soutien des nouveaux GTLD, et c'est un petit peu comme si on laissait conduire quelqu'un sans permis de conduire. Donc, organisation de soutien pour les nouveaux GTLD, les groupes multiparties prenantes et les unités constitutives qui en ont fait partie, chacune représente un secteur. Donc, on a parlé des secteurs auparavant. On a parlé des secteurs que vous représentez en société civile, gouvernement, société privée. Qui êtes-vous? Quels sont vos intérêts? Et ensuite, vous le ramenez à une personne et vous en venez au niveau du modèle multipartie prenante. Vous voyez quels sont vos intérêts. Et en tant qu'entreprise, vous pourrez avoir un nom de domaine de premier niveau. Et donc là, une politique a été créée par une organisation de soutien pour les noms de domaine génériques de premier niveau. Et il y a eu une politique développée sur 8-9 ans pour ces groupes, les registres.com, .org, .net, les bureaux d'enregistrement, GoDaddy, c'est toujours un bon exemple à cet égard, les intérêts en termes de propriété intellectuelle, les titulaires de noms de domaine, les entreprises Google, Microsoft, les intérêts à but non lucratif ou non commerciaux. Ils participent tous à la formulation d'une politique de nom de domaine générique de premier niveau. Et ce qui a été décidé et approuvé par le conseil d'administration, comme cela a été expliqué par Jarang, ensuite, nous, personnel de l'ICANN, avons la responsabilité de le mettre en œuvre. Vous avez ensuite les propriétaires d'entreprises qui disent, voilà, je veux faire partie de cette politique parce que c'est important d'y participer en tant qu'entreprise et je veux contribuer à mettre en place cette politique. Voilà, il y a cette politique qui existe. Moi, je veux demander le point 20 parce que mon entreprise participe à ce secteur et je veux avoir ce nom. Or, vous ne serez pas le seul à avoir cette idée. Peut-être que ce sera point 20, point wine, point 20 dans une autre langue. Et maintenant, à travers la politique et la mise en œuvre de cette politique, la manière dont les applications sont mises en œuvre, cette personne qui travaille dans un secteur particulier peut venir ici à l'ICANN, a fait la demande ou à présenter sa candidature, et il y a des personnes qui décident de cela. Du prix, 8 millions de dollars, et le comité consultatif du gouvernement dit, attendez un instant, nous avons un avis à donner sur point 20, point wine, point 20 dans une autre langue. Nous avons un avis que nous voulons donner au conseil d'administration. Et le conseil d'administration et le conseil du GAC doivent être entendus. Et le fonctionnement de cette politique adoptée et de cet avis fait en sorte que on doit entendre cet avis. Donc, vous avez les organisations de soutien qui contribuent à cela. Vous avez les comités consultatifs qui contribuent à mettre en œuvre ce qui a été approuvé. Donc, vous avez cet équilibre. Et d'un point de vue mondial et de tous les points de vue, bien entendu, tout le monde ne va pas toujours être satisfait des décisions qui sont prises, mais en tout cas, on essaie d'atteindre cet équilibre. Jarang au micro. Merci, Janice. J'aimerais ajouter brièvement quelque chose avant de prendre une question dans la salle. J'utilisais également l'exemple de point Amazon. Mais pourquoi est-ce que différents groupes doivent participer? Par exemple, on connaît tous Amazon. C'est ce qu'on connaît le mieux. Donc, il y a une politique qui permet l'enregistrement de points Amazon. Comment, ensuite, pouvons-nous nous assurer que d'autres régions ou qu'au niveau mondial, tout le monde peut voir Amazon comme Amazon, la société? Et c'est là Kaji le gag en disant « Non, Amazon, ça représente également une région. Une région dans la région Amazon des Amériques. » Et donc, on n'a pas permis que l'entreprise Amazon prenne ce nom de domaine Amazon. Parce que ça couvre d'autres choses. Donc, c'est pourquoi ce modèle multipartie prenante doit faire participer tout le monde. Parce que peut-être qu'une politique va toucher vos intérêts ou quelque chose qui va vous intéresser et les autres n'en seront pas conscients parce qu'il y a des différences culturelles, géographiques, linguistiques. Mais lorsque cela concerne vos intérêts et touche vos intérêts, il est important que vous vous fassiez entendre au sein des organisations de soutien et des comités consultatifs. Question dans la salle. Oui. Alors, vous parlez, je parle ici des bulles à l'écran. 8. Donc, une unité constitutive a 8 nombres, d'autres en ont 7. Donc, quel est le processus pour faire en sorte que ce comité de nommage représente telle unité constitutive ou telle autre ? Janice au micro, merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Non, je vais le faire. Bon, c'est un graphe. D'abord, donc, c'est pas tout à fait précis. Mais parlons du comité de nommage. Il fait rapport directement au conseil d'administration. Il s'agit d'un groupe divers de personnes sélectionnées pour essayer de trouver des personnes qui connaissent ou non l'ICANN, mais des personnes qui ont différentes expériences et différents points de vue pour essayer de revenir vers le conseil d'administration ou vers le conseil consultatif ou d'autres organisations soutien, la CCNSO et d'autres. Donc le comité de nommage, nomination, son rôle, c'est d'essayer de trouver des personnes qui peuvent créer une communauté divers au sein de l'ICANN. Donc, lorsqu'ils participent à la cérémonie d'ouverture, vous les verrez certainement mardi, vous verrez un groupe très divers de personnes qui sont sélectionnées, non pas pour leur expérience à l'ICANN, mais pour leur expérience plus générale, pour qu'il y ait une diversité garantie dans les décisions qui sont prises. Donc les membres du comité de nomination n'ont pas droit de vote. Le comité de nomination est important et on a une personne qui va nous parler du comité de nomination mardi lors de la réunion qu'on aura, qui est ouverte à tous d'ailleurs. Bonjour, Assam Amanda au micro. Il y a un élément qui porte un petit peu à confusion pour moi. Je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Il s'agit du ombudsman, donc médiateur. Quel est son rôle exactement ? Jarang au micro. Oui, Chris et médiateur qui était assis juste à côté de moi au début de la réunion. Un médiateur, finalement, c'est une personne qui va aider une personne qui a un problème ou qui a la sensation que quelque chose n'est pas fait de manière juste. vous pensez par exemple que la communauté n'agit pas de manière juste, alors vous pouvez en informer le médiateur. Le médiateur, c'est une personne qui est neutre vis-à-vis de l'organisation. Donc, toute personne peut écrire à Chris Lahart et lui dire « Voilà, je pense que ce processus n'a pas été juste, que le traitement de telle question n'a pas été juste. » Donc, écrivez au médiateur, parce que le médiateur, c'est celui qui va nous mettre en garde contre ce type de choses. C'est un petit peu la personne qui va servir de contrepoids pour cela. Catherine Magawa de l'Ouganda, au micro. Le modèle multipartie prenante de l'ICANN. J'avais une question là-dessus. Est-ce qu'il y a des situations de chevauchement ou bien de conflit d'intérêts? Si ce n'est pas le cas, comment vous assurez-vous que cela n'arrive pas? Et si cela arrive, comment réagissez-vous face à cela? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question. Comment pouvez-vous sensibiliser la communauté chez vous? Oui, parce que quand j'ai dit que j'allais à l'ICANN, j'étais très émue. J'ai dit, voilà, je vais à la réunion numéro 52 de l'ICANN. Et quelle a été la réaction? Mais qu'est-ce que l'ICANN? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, je sais que vous faites un excellent travail, mais dans mon pays, on ne connaît pas bien ce que vous faites. On ne connaît pas l'intensité de votre travail. Donc, comment mieux communiquer là-dessus? Merci. On va prendre plusieurs questions, dit Jarong. Deux questions sur la manière dont on résout la question des points de vue divergents et comment travailler sur la sensibilisation vis-à-vis de l'ICANN.
Notre personne au micro, oui. J'ai entendu des gens parler de l'ICANN qui créer des groupes de travail, par exemple, sur les droits de l'homme en ligne. Il y a aussi Wolfgang Kleinrichter qui a aussi parlé de l'ICANN en disant que les ICANN avaient déjà des fonctions quand il s'agissait des droits de l'homme. Donc, ma question est... À quel niveau est-ce que c'est... comment est-ce que l'on fait face aux problèmes de droits de l'homme sur l'Internet à l'ICANN? Et est-ce que l'Ombudsman a un rôle à ce sujet ou est-ce que l'Ombudsman n'a pas de rôle à ce sujet? Fawaz de Pakistan, au micro. Une petite question. La création des politiques est très importante dans votre rôle. Qui est au top de tout cela? Qui est en haut de la décision des politiques, de la création des politiques? Nigel, au micro. Donc, on va essayer de répondre à ces deux questions maintenant parce que sinon on va oublier quelles étaient les questions. Janice. Elle prend des notes toujours. Et puis après, elle nous enverra les questions, en fait. Elle nous donne des notes. Elle nous note. Si on a 10 sur 10, on a le droit à un pot ce soir. On nous paiera une bière ce soir. Si on n'a pas 10 sur 10. Alors, un point en général. Quand il s'agit du modèle multipartite, ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, cette approche multipartie prenante est assez innovante. ICANN n'a pas inventé le rôle des différentes multiparties parties prenantes. Mais pourquoi est-ce que ICANN a évolué dans ce modèle? quand on fait des recherches sur chacun des problèmes, on observe d'autres exemples dans les secteurs, dans d'autres secteurs qui utilisent cette approche. Dans les gouvernements, dans d'autres secteurs, comme il y a d'autres secteurs où la communauté utilisait cette approche multipartie prenante. Il y a très peu d'autres exemples d'ailleurs. Et la chose critique lorsqu'il s'agit de cette approche multipartie prenante, c'est la prise de décision. Dans une approche multilatérale, par exemple à l'ONU, et dans d'autres organisations intergouvernementales, ce sont les gouvernements à la fin qui prennent les décisions. Et par exemple, l'ITU, c'est un groupe très innovant qui engage plusieurs parties prenantes, mais à la fin, ce sont donc les gouvernements qui prennent les décisions. Ce sont les gouvernements qui se rassemblent aux Nations Unies aussi, à Washington, et qui prennent des décisions. Ici, dans cette approche, dans notre approche, à la fin, c'est le bureau des directeurs. Et quelqu'un a posé une question sur les NAMCOM, sur les comités de nomination qui nomment donc les gens, les personnes au bureau d'administration, au bureau des directeurs. Donc, à la fin, donc, on sait que les décisions sont prises par ce bureau. Et tous le gars qui contient 100 et quelques gouvernements, j'espère que certains d'entre vous auront la chance, feront partie de ce comité un jour. Et ainsi, vous pourrez voir quel est le travail qui est fait à ce niveau-là. Le GAC a un rôle crucial pour donner des conseils, donc, sur les politiques au bureau d'administration. On doit entendre les gouvernements. La plupart du temps, dans tous les cas, leurs conseils sont nécessaires. Mais à la fin, nous savons que c'est le bureau des directeurs qui prend les décisions. C'est la partie cruciale de l'approche du domaine multipartie prenante. Il y a toutes ces parties qui donnent des conseils au bureau de direction, mais à la fin, c'est bien le bureau des directeurs qui prend la décision. Janet, est-ce qu'on veut parler de la sensibilisation, de comment faire passer les informations de l'ICANN? Ah oui, l'autre personne au micro. Quoi qu'au micro? Pourquoi? Oui, Janice, pourquoi personne ne connaît l'ICANN? En gros, c'est ça. Quoi? Pourquoi personne ne connaît l'ICANN? Donc, la deuxième question, c'est plus facile d'y répondre. En fait, c'est pour ça que vous êtes là, ici, les boursiers, les nouveaux venus. Fadi en a parlé tout à l'heure. Vous êtes les personnes, les maillons les plus importants. Si vous êtes là pour la première fois, vous avez certainement entendu parler de la CAN, mais il y a beaucoup d'entre vous qui doivent connaître plus de choses sur la CAN. Vous êtes donc les personnes dont on a besoin pour partager la parole de la CAN. Si vous nous demandez combien d'aide personnel à la CAN, on est somme à 200, 300 personnes. Donc, pour une organisation qui aide à maintenir un Internet ouvert et libre, c'est très peu de personnes, de personnel. Et quand vous voyez le nombre de personnes, on augmente le nombre de personnel. Ici, nous avons un bureau ici, dans cette région, donc à Singapour. Il y a d'autres bureaux, mais il y a très peu d'entre nous qui faisons le travail d'information de l'ICANN. Et pourquoi nous devons... Ce chiffre, donc, ce nombre de personnes est très limité. C'est pour ça que, donc, nous avons besoin de cet effet de multiplication. Et cela correspond à vous tous ici, pour que vous rameniez chez vous l'information. Quand vous rentrez de cette réunion, expliquez à tous ce que vous faites. Donner les informations sur la transparence de l'Internet, de l'ICANN, du fonctionnement de l'ICANN, à informer les gens dans vos pays sur l'ICANN. Au début, nous avons parlé de l'équipe Asie-Pacifique avec Calvin, moi et Samiran. Et nous avons Yangwa qui est là aussi, Yuni aussi. L'équipe de Asie, nous voulons travailler avec les parties prenantes pour informer sur la CAN. Dans la région Afrique, nous avons Pierre qui n'est pas là aujourd'hui, mais si vous venez d'Afrique, parlez à Pierre. Pierre est là pour engager les parties prenantes en Afrique. Nous voulons tous travailler avec toutes les parties prenantes. Il ne faut pas seulement dire oh, « je suis venu à la Réunion et parler de notre expérience ». Nous voulons vous donner les outils, les informations dont vous avez besoin pour vous laisser, pour vous donner, pour que vous puissiez partager les informations sur la CAN. Nigel, oui, c'est ça, c'est le but de cet effort organisationnel. C'est pour nous assurer que vous compreniez mieux les choses de la CAN, pour que les gouvernements, les parties prenantes dans vos pays puissent mieux comprendre ce que fait la CAN. C'est donc crucial à l'ouverture, la singularité. Vous avez parlé des droits de l'homme tout à l'heure. Bien sûr, nous aurons des discussions là-dessus. Il y aura des réunions là-dessus cette semaine. Vous allez pouvoir en discuter de cela. Donc, ICANN n'a pas un groupe de travail particulier sur les droits de l'homme, mais c'est très, très important en termes du nouveau GTLD, du lancement des nouveaux GTLD, des relations avec l'ICANN, de l'ICANN entre les opérateurs de registre, les bureaux d'enregistrement, pour que ces gens puissent continuer à faire leur travail et qu'ils fassent très attention à la sécurité, la vie privée, pour que tous ces sujets soient partie des discussions. Je n'ai pas expliqué mon rôle. On n'a pas assez de temps pour ça, mais je m'occupe des organisations intergouvernementales et je suis aussi au Conseil de l'Europe dans ce communauté sur la société de l'information. Janice, nous sommes arrivés à ce moment-là où nous avons des interprètes dans la salle qui ont besoin d'aller à leur prochaine session et ainsi de suite. Nous sommes arrivés à ce moment de la journée. Ce que j'aimerais, c'est revenir vers 13h30 avec les questions qu'il nous reste de ce matin. Nous recommencerons donc à 13h30 avec ces mêmes questions. Donc, pour voir un petit récapitulatif, ce matin, nous avons parlé des bases. Vous avons dit, voilà, vous êtes des nouveaux venus, voilà, c'est comme ça que nous voulons que vous puissiez participer. Nous avons parlé de l'écosystème de l'Internet qui a beaucoup de parties, ITU, AIGTF, ITF, IETF, nous travaillons avec l'UNESCO, il y a beaucoup d'entités de parties dans l'Internet. Nous ne sommes pas juste un groupe. Le mandat de la CAN, c'est les noms et les nombres. Et nous faisons notre mandat à travers le modèle multipartie prenante, afin que tous les secteurs aient leur point de vue pour pouvoir se conseiller, aider à travers les politiques. Nous voulions vous introduire à notre équipe, à nos membres de la CAN, pour vous donner un peu une base de ce qui nous sommes, comment nous faisons notre travail. Cet après-midi, comme j'ai dit, j'aimerais qu'on commence avec des questions. Si vous avez des questions, venez me voir pour que nous puissions commencer avec vos questions. Et cet après-midi, vraiment, nous allons parler plus en détail du GNSO, du CCDSO, de la construction des politiques, de la mise en place des politiques. Nous allons parler de l'IANA pour vous montrer comment c'est important pour vous. Nous allons parler de domaines globaux et pourquoi c'est important. Nous allons parler de la sécurité, de la cybersécurité, pourquoi cela est-il important, ce que fait l'ICANN à ce sujet. Nous aurons des orateurs différents cet après-midi. Nous parlerons de la construction de votre ordre du jour, de votre horaire pour la semaine. Et puis, nous parlerons aussi des choses fun à faire, ludiques. Alors, il y a plein de choses à faire, sauf mes boursiers qui doivent rester avec moi d'ailleurs. Et nous vous donnerons des conseils pour le reste de la semaine. Je vous encourage donc à revenir à 13h30 pour apprendre plus et pour que nous puissions vous aider pour la semaine. Merci d'avoir été là ce matin. Merci à mon groupe, mon personnel et mes orateurs. Merci, on vous retrouve à 13h30.